France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, deuxième émission aujourd'hui sur le thème du jeûne, en compagnie de Silvio De Franceschi, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et jusqu'à très récemment directeur du laboratoire d'études sur le monothéisme, Bernard Héberger, directeur d'études émérites à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'École pratique des hautes études, et de Vanessa Contuma, directrice d'études et doyenne des sciences religieuses à l'École pratique des hautes études. Alors, nous allons commencer cette deuxième émission avec une phrase de Basile de Césarée, grand-père de l'Église du 4e siècle. À la fois moine et grand pasteur, ça c'est très important. Donc, la pensée est quelqu'un qui a beaucoup contribué aussi à la formation du dogme chrétien. Donc, il réunit toutes les qualités qui sont très importantes. Et Basile donc disait dans cette phrase qui est tirée d'une des homélies sur le jeûne, « Le jeûne véritable est d'être étranger au vice ». Et là, on voit bien le lien qui est fait entre le jeûne du corps, de la nourriture, et le jeûne spirituel. Alors, je pense que vous voulez tous intervenir. Silvio De Franceschi.
Alors, si je me place du point de vue de la tradition catholique, donc et notamment à l'époque moderne, il est clair que dans l'esprit donc de ceux qui s'occupent de la théologie morale, donc de fixer les règles du jeûne, le jeûne alimentaire, le fait de respecter un certain nombre d'interdits alimentaires, est destiné effectivement à une valeur spirituelle, est destiné à purifier le corps et notamment, c'est ce qu'on a déjà évoqué dans la première émission, à réfréner les passions charnelles. Il y a un adage célèbre que les moralistes utilisent qui dit sans Bacchus et Cérès, Vénus est froide. Donc si jamais vous ne buvez pas d'alcool et que vous vous contentez d'une nourriture tout à fait ordinaire, normalement votre appétit charnel devrait diminuer et du coup vous rendre plus apte à observer une forme de haute spiritualité. C'est cette dimension pénitentielle du jeûne qui a fait que c'était une pratique qui était plutôt mal vue du fidèle ordinaire. Hein. Le fidèle ordinaire, le carême, il le voit arriver avec inquiétude, angoisse, mauvaise humeur. Il cherche toutes les excuses possibles pour s'en dispenser. Et de là, donc, le fait que ces pratiques du jeûne sont mal considérées par l'ensemble des fidèles, et que le jeûne est associé à une période désagréable, et ce n'est finalement qu'assez récemment, fin du XXe siècle, qu'on a essayé de réhabiliter une vision plus positive du jeûne. C'est le cas notamment d'un auteur bénédictin, Adalbert de Vaugues, qui avait publié en 1988 un ouvrage intitulé « Aimer le jeûne ».
Alors, aimer le jeûne, oui, ça c'est très bien. Vanessa Contuma, je pense que dans le monde orthodoxe, il y a quand même des gens qui ont plus respecté cette idée à travers l'histoire et qu'on n'a pas de période où on qualifie le jeûne de quelque chose de vraiment d'une sorte de punition comme ça.
Oui, ou oui non? Alors en effet, oui, vous avez raison. Je ne sais pas si on peut dire oui qu'on aime le jeûne dans l'orthodoxie. Ce qui est certain, c'est que la moitié de l'année liturgique est quand même consacrée à des jeûnes, donc il devait avoir quand même une petite tendance à l'apprécier ou en tout cas en voir l'utilité. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on est d'abord dans cette idée d'un exploit monastique, de quelque chose de presque surhumain. Hein, donc, les moines qui se livrent aux jeûnes pour combattre le vice sont presque vus comme comme ayant dépassé la condition humaine. Ce qui s'oppose, d'une certaine façon, aux exigences spirituelles qui peuvent être celles des laïcs qui vivent dans le monde. Et donc, cette opposition, évidemment, est visible au départ. Mais on peut dire qu'elle tend à s'estomper par une espèce d'effet d'entraînement de la liturgie et donc de la participation du fidèle à la vie de l'Église. Alors cet effet d'entraînement, il n'est pas nécessairement immédiat dans l'histoire de l'Église. On peut dire que jusqu'au 8e siècle, il y a une grande disparité des pratiques et c'est après l'introduction du typikon sabbaïte, de la généralisation de la pratique justement monastique liée au typikon sabbaïte, que l'on va voir s'imposer quand même dans la vie de l'Église des jeunes fréquents qui sont un peu à l'image des jeunes monastiques et qui vont être finalement et progressivement adaptée à la vie des fidèles, des laïcs, avec une histoire longue, en fait, qui connaît des rebondissements, mais
dangereux. Tout à fait. Et d'ailleurs, il faut rappeler que dans l'Église orthodoxe, il y a des règles qui sont assez dures parfois, mais il est dit qu'à chaque fois, elles doivent être adaptées à la personne, etc. C'est le lien aussi avec...
Alors effectivement, c'est pour cela qu'il n'y a pas... Enfin, on encadre le jeûne avec la vie liturgique. Bon, on connaît les typicas, hein, les typicas sont quand même assez précis, hein, donc l'encadrement se fait de façon de plus en plus stricte. Hein. Mais c'est un encadrement et ce n'est pas une prescription. Donc, on n'a pas tous à obéir aux mêmes règles. Il y a une gradation en fonction du rôle que l'on a, du rôle que le fidèle va tenir et ce qu'il veut, lui, ce qu'il espère, disons, gagner au moment de, dans son combat pour le salut.
C'est ça, donc, c'est un critère toujours sotériologique.
Alors, il y a ce critère, effectivement, sotériologique qui est fondamental. Mais enfin, je pense qu'il est le même dans toutes les traditions, tout de toute façon. Hein. Après, il faut voir l'application de celui-ci. Disons que l'encadrement liturgique dans l'orthodoxie est aujourd'hui encore, a cette vocation à effectivement favoriser ce jeûne des laïcs. Hein.
Alors Bernard Héberger, vous connaissez très bien le monde du Moyen-Orient, on va dire, et toutes ces églises chrétiennes qui ont vécu, qui vivent peut-être encore, qui sont minoritaires, qui sont... et puis un monde qui est très pluriel.
Alors justement, et donc la phrase de Basile renvoie au perfectionnement personnel, à une discipline individuelle, et disons c'est peut-être l'idéal monastique. Mais je voudrais insister sur la dimension communautaire du jeûne. C'est effectivement une discipline qu'on s'impose à soi, mais on mange ensemble. Donc il y a quelqu'un qui fait la cuisine pour tout le monde. Et puis, dans le contexte pluraliste, où il y a plusieurs églises en compétition, eh bien, le jeûne va être un signe de distinction. On va... appartenir à une communauté en fonction de la façon dont on jeûne. Donc, par exemple, dans le Typikon de Théodore Studite, il dit « Nous devons manger du fromage, du beurre et des œufs la semaine des laitages pour nous distinguer des Arméniens. » Il y a des textes de l'Église de l'Est qui disent « Les Melkites, il leur manque quelque chose dans le jeûne, plusieurs jours de jeûne par rapport à la durée normale du jeûne, comme il leur manque quelque chose dans la foi. » Donc, se distinguer par la façon dont on jeûne et les nombres de jeûnes, c'est un élément qui fait que le jeûne est une affaire communautaire. Mais... avec l'arrivée des missionnaires, avec l'arrivée de la théologie occidentale, directement, mais aussi indirectement par Mogila et par certains théologiens orthodoxes, eh bien, la dimension individuelle, la dimension de perfectionnement individuel va l'emporter sur le sens de ce jeûne communautaire. Et du coup, on va avoir plein de contestations sur les règles du jeûne, on va avoir plein de demandes d'allègement du jeûne de la part des fidèles. Les fidèles vont trouver ça plus commode de suivre une discipline d'inspiration latine plutôt qu'une discipline communautaire qui est plus rigoureuse. Et en vous écoutant, j'ai pensé que il y a quelques années, quand au début de mes études en histoire moderne, il y avait les démographes qui ont constaté qu'il y avait une baisse des conceptions pendant le carême. Et il y a eu un débat sur est-ce que cette baisse des conceptions veut dire qu'on a intériorisé une abstinence sexuelle pendant le carême, ou bien est-ce que, par exemple, il y a une aménorrhée des femmes du fait qu'elles elles ont une nourriture insuffisante. Enfin, voilà, donc on peut aller très loin sur les conséquences du jeûne dans la vie du fidèle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les fidèles se sont un peu rebellés contre des règles trop rigoureuses. Et au Proche-Orient, le jeûne des apôtres, par exemple, il tombe en été. On a des laitages, on a de la viande, mais on a très peu de légumes à cette période-là. C'est un argument qui revient plusieurs fois.
Alors, émission œcuménique, je rappelle, puisque nous sommes toujours dans le sillage de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et donc, notre musique également sort du contexte orthodoxe avec une très grande œuvre de Jean-Sébastien Bach, le début de la cantate Ich habe genug, BWV 82. Et c'est Dietrich Fischer-Dieskau qui chante, accompagné par l'orchestre Bach de Munich sous la direction de Karl Richter. Deuxième partie maintenant de cette émission, de cette deuxième émission sur le jeûne, en compagnie de Silvio Franceschi, Vincent Contuma et Bernard Héberger. Après donc Fischer-Dieskau qui chantait le début de cette cantate de Bach, nous revenons dans la discussion. On n'a pas défini encore le jeûne. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une définition que tout le monde admet, en tout cas dans le monde chrétien?
Il n'y a pas de définition générale, vous avez, c'est des règles en fait, et donc ça va dépendre finalement si vous êtes catholique, protestant, catholique grec, melkite, que sais-je encore. Pour les catholiques romains, il y a trois règles qui définissent la pratique du jeûne. La première règle, c'est dit un seul repas complet par jour. Deuxième règle, c'est l'abstinence. Au sens technique, l'abstinence, c'est l'abstinence du gras. Donc ça veut dire que ce repas unique quotidien doit être uniquement en maigre. Et la troisième règle, c'est l'heure imposée du repas. Alors ça a varié au fil des siècles. Hein. C'est-à-dire, au départ, il fallait faire ce repas à 18h, en fin de journée, au moment du coucher du soleil. Et puis, les gens ont trouvé que c'était compliqué, finalement, de jeûner toute la journée en travaillant. Donc, c'est 7 heures à reculer dans la journée. Donc, ça a été 15 heures. Et puis, finalement, à l'époque moderne, c'est la mi-journée qui doit être respecté. Alors il y a eu premier adoucissement, ça a été le recul de 7 heures, et puis il y a eu un deuxième adoucissement qui a été apporté à partir de Saint Bernard. On considère que c'est à ce moment-là que ça se met en place. C'est ce qu'on appelle la collation vespérale. Donc vous avez le droit à prendre un petit peu de nourriture le soir, uniquement en maigre. Hein, et la question de la quantité qui est autorisée à cette réflexion vespérale a donné lieu à une casuistique surabondante. Et puis un dernier adoucissement a été apporté pour s'accommoder à la pratique contemporaine. À partir de la mi-19e siècle, vous êtes autorisé à prendre un petit déjeuner. Mais là aussi, la quantité de nourriture permise est...
Donc pas de définition, mais des règles.
C'est des règles.
Je voudrais aussi parler de quelque chose d'autre. Nous n'avons pas ici de spécialiste du protestantisme, malheureusement, parce que les rendez-vous n'ont pas fonctionné, mais on en parle quand même. Et puis, l'effet de la réforme sur la pratique du jeûne. Alors, évidemment, ça concerne plutôt l'Occident, mais c'est quand même important. Est-ce que, Bernard Héberger, vous voulez dire quelque chose là-dessus, sur la question ?
À cause de la réforme protestante, les catholiques sont très attentifs à la question du jeûne chez les orientaux et admirent les orientaux pour la longueur et la dureté de leur jeûne. Et ça leur donne un argument face aux conflits confessionnels européens avec les protestants. Ensuite, ils admirent ce jeûne oriental, mais en même temps, ils le dénigrent. Ils pensent que la pratique des sacrements est beaucoup plus importante que le jeûne. Donc, il y a par exemple un capucin d'Alep qui dit il jeûne comme des forcenés, mais ils vont en enfer parce que ils communient très peu, ils communient sans se confesser, ils ne se confessent pas selon les règles de la confession occidentale. Donc, une insistance sur les sacrements. Et dans tous les textes arabes produits par les catholiques à destination des orientaux, le jeûne occupe très peu de place, alors que les sacrements en occupent énormément. Dans le synode maronite de 1736, je crois qu'il y a 7 ou 8 chapitres sur la communion et la confession, et il y a 2 pages sur le jeûne.
Vincent Contuma, le monde orthodoxe est-il influencé par la réforme qui se passe en Occident? Est-ce qu'on voit les reflets de ça dans l'orthopraxie peut-être, et la manière de faire.
Au XVIIIe siècle, avec Nicodème Lajorite, on a une réponse forte qui va perdurer en réalité jusqu'à aujourd'hui à ces nouveaux enjeux qui apparaissent. Et donc Nicodème, évidemment, sans renier évidemment l'importance de toute la vie liturgique. Au contraire, il va insister sur son importance et sur l'importance de la tradition liturgique, mais il va aussi rappeler l'importance de la vie sacramentelle. Pour lui, donc, il va remettre un peu au centre de la discussion la vie sacramentelle, avec aussi une nouvelle insistance sur la confession qui doit, comme sacrement, être introduite en vue de la communion eucharistique. Donc là, il va se faire une espèce de rééquilibrage, on peut dire, peut-être sous l'influence de ces discussions qui ont lieu en Occident, sans doute d'ailleurs même sous cette influence, avec donc une prise de distance vis-à-vis d'un jeûne qui apparaît comme une coutume sociale presque obligatoire et à laquelle aucun fidèle ne peut échapper, pour un renforcement de la participation individuelle du sujet à la vie liturgique par son implication dans la vie sacramentelle, avec aussi cet exercice de la confession qui est renforcé.
Je regarde aussi dans ce livre, et il y a plusieurs articles évidemment sur le christianisme protestant. Il y a un article « Jeûne et combat spirituel au sein du protestantisme évangélique » signé par David Vincent. On s'y attend peut-être pas à tort, mais l'idée du jeûne existe apparemment, toujours chez nos frères évangéliques. Mais il y a une réaction évidemment contre l'institutionnalisation. Et ça, ça revient peut-être aux questions de la réforme, je ne sais pas. C'est en tout cas très intéressant à voir. Et il dit, même si le jeûne peut être perçu comme un moyen de repentance et d'humiliation devant Dieu, notamment dans le cadre des jeûnes collectifs et particulièrement des jeûnes nationaux, le jeûne est le plus souvent conçu comme un auxiliaire à la prière. Et donc, on voit bien que cette idée revient. Alors, il reste très peu de temps pour terminer. Il faut peut-être essayer de résumer tout ça et on revient peut-être aux origines avec le jeûne monastique et le jeûne qui est proposé à tout fidèle, à tout laïc, etc. Alors peut-être un mot chacun. Vincent Contouma ?
Un mot, ce serait la liberté. C'est-à-dire le jeûne, ce n'est pas la contrainte, mais la liberté de suivre la voie du salut.
Et ça, ça dépend de qui ? Ça dépend de chacun des fidèles ? Ça dépend également de sa relation avec un père spirituel ? Ça dépend.
L'efficacité, elle vient de la libre volonté. Sans libre volonté, il y a effectivement contrainte, il y a obéissance à une prescription, et donc la part individuelle dans cette quête est atténuée. Donc le message, on peut dire, fondamental du christianisme au sujet du jeûne, c'est de nous responsabiliser vis-à-vis de notre vie spirituelle.
On revient toujours à la phrase de Basile de Césarée. Oui, hein, oui, tout à fait.
Ce qui n'empêche pas ce que vous avez dit dans la phrase que vous venez de citer, qu'elle doit être liée à la prière et l'aumône aussi.
Tout à fait, on voit bien. Je rappelle, c'est une émission sur l'unité des chrétiens et on trouve quand même dans cette diversité énorme, parfois ces oppositions très fortes, on trouve quand même des idées qui sont communes. Aussi le vote de Franceschi, oui.
En catholicisme, moi, ce que j'observe, c'est que pendant toute l'époque moderne, on a affaire à une phase de relâchement dans la discipline du jeûne, avec des autorités ecclésiastiques qui essaient de le maintenir et puis qui finissent par lâcher complètement à la mi-19e siècle, en se rendant compte que ça ne sert plus à rien d'imposer un jeûne trop rigoureux. Le front du combat à mi-19e, on le voit très clairement. Hein, c'est dans l'émendement de carême des évêques qu'on voit qu'ils ont de plus en plus de mal à faire respecter cette discipline. Donc, ils ont tendance à laisser tomber, d'une certaine manière. Et en revanche, le nouveau combat, ça va être l'observance du repos dominical. Sous l'effet de l'industrialisation, en fait, c'est une pratique qui a de plus en plus de mal à être respectée. Donc, les évêques reportent leur combat là-dessus. Et donc, on a un relâchement de cette discipline du jeûne, relâchement qui va être entériné de manière quasi définitive par la constitution Paetemini prise par le pape Paul VI en 1966 au lendemain du Concile Vatican II. Et en revanche, très récemment, Et j'ai l'impression que c'est sous l'effet d'une forme d'émulation par rapport aux pratiques musulmanes qui sont de plus en plus visibles dans l'espace public, et notamment la pratique du Ramadan, on a l'impression que les catholiques redécouvrent la pratique du jeûne et la pratique du carême. Mais il faudrait faire davantage d'études quantitatives que celles dont nous disposons pour en être sûr.
Bernard Héberger, en une minute, le Moyen-Orient.
Je ne sais pas si je vais parler du Moyen-Orient, mais oui. Je veux dire, au Moyen-Orient, la dimension communautaire du jeûne est toujours présente, en particulier à cause de l'islam, et donc il faut
se démarquer.
Il faut à la fois montrer qu'on jeûne autant que les musulmans, mais qu'on a un autre calendrier et un autre rythme. Mais aujourd'hui... il y a une pratique individuelle, peut-être pas du jeûne, mais par exemple de l'abstinence. Être vegan, c'est une forme d'abstinence. Et ça pose un problème, disons, de la commensalité, de manger ensemble et de faire communauté autour d'un repas. Ça, c'est un problème qui se pose aussi au Proche-Orient et qui se pose dans toute la société moderne.
Autour d'un repas, ça veut dire que tout le monde mange la même chose. Manger la même chose, oui. C'est ça. Alors, Vincent, pour terminer... Il y a eu un concile récemment dans l'Église orthodoxe qui, après une réflexion longue d'ailleurs, qui avait commencé avant, a opté pour le respect de la tradition.
Oui, alors effectivement, le débat a commencé en 1923 et il a trouvé son terme qu'en 2016 avec le concile de Crète. Il y avait des idées réformistes en 1923 qui ont finalement été mises de côté. Aujourd'hui, nous sommes sur une idée du respect de la tradition, je dirais presque la plus stricte, ou de la façon la plus stricte possible, avec une conception de cette tradition comme étant immuable.
Et c'est la liberté de chacun, comme vous avez dit tout à l'heure, qui fait partie de la théologie, évidemment, nous savons bien que la volonté...
La liberté d'accepter des contraintes sans s'y plier.
Exactement. Bon, c'est une très belle phrase pour notre fin. Vincent Contouma, Silvio De Franceschi et Bernard Héberger, un grand merci. Alors, je rappelle le titre de l'ouvrage qui a inspiré cette émission, La dîme du corps, doctrine et pratique du jeûne, sous la direction de Yossine Benkera et de Silvio Hermann De Franceschi. Deux volumes parus chez Brepols, bibliothèque de l'École des études, en 2023. C'était Doctrine et pratique du jeûne, deuxième partie. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Olivier Arnay. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant avec Jean-Luc Gadreau.